Art Story. Une histoire, une œuvre d'art. Cette semaine, Paul Gauguin, Paradis perdu. De Pont-Aven à Tahiti, Paul Gauguin a créé des icônes de l'art moderne. Un itinéraire pictural d'un faune de la peinture, entre rêve et nostalgie, désir de liberté et quête d'exotisme. Fuir là-bas, fuir, s'exclame Stéphane Mallarmé dans son poème Brise marine de 1866, et de continuer. Je partirai, steamer balançant amature, lève l'ancre pour une exotique nature. Un appel du large auquel répond Paul Gauguin en s'embarquant vers des contrées lointaines et inconnues, une première fois pour la Martinique en 1887, puis pour Tahiti à deux reprises en 1891 et 1895. L'artiste, qui ne s'est mis à la peinture qu'à 40 ans et est devenu le chef de file d'un mouvement pictural né dans le coin le plus reculé de Bretagne, succombe à l'invitation au voyage. Ses toiles se nimberont bientôt de cette rêverie qu'il appelle de ses vœux. Puisse venir le jour où j'irai m'enfuir dans les bois, sur une île de l'Océanie, vivre là d'extase, de calme et d'art. Libre enfin, sans souci d'argent, et pourrai aimer, chanter et mourir, écrit-il. Il faut dire que l'époque se prête à la recherche d'idylles et de civilisations lointaines, insufflées par les récits de voyages du bout du monde qui en vantent les attraits. Un parfum d'exotisme également distillé par la circulation des estampes japonaises et avec plus ou moins de bon goût par les grandes expositions universelles, dont celle de 1889 est restée dans les annales pour avoir exhibé les indigènes des terres d'Afrique et d'Océanie. D'abord en Bretagne, ensuite à Tahiti, Gauguin aura toujours la même démarche, celle de renouveler son art, d'atteindre à une harmonie des couleurs et de s'unir à la terre qui l'accueille dans sa dimension naturelle et spirituelle. Petit à petit, ses paysages s'ornent d'une végétation luxuriante et ses corps peints confinent à des silhouettes sacrées, tandis que ses bois gravés et ses sculptures réalisées à Tahiti et aux Marquises ressuscite l'art oublié des mers du Sud, les formes stylisées des tikis et leur aura, comme la statuette Oviri, qui veut dire sauvage. Une fascination pour un art primitif dont il se sent proche et qui influencera Matisse, Picasso et plus tard les expressionnistes allemands. N'oublions pas que Gauguin est dès son plus jeune âge un enfant d'ailleurs, qui, à peine né, se voit déraciné de la France vers le Pérou jusqu'à ses 7 ans, où sa famille a des origines par la grand-mère maternelle, l'écrivaine féministe Flora Tristan. Plus tard, il aimera se souvenir de cette lointaine figure familiale en comparant son propre profil à celui d'un Inca, soulignant la courbe de son nez dans ses autoportraits, comme dans « Autoportrait au Christ jaune » ou « Autoportrait à la palette ». Une altérité, un métissage assumé qui trouvera à s'exalter dans les œuvres tahitiennes. C'est ce cheminement et ce déracinement qui s'apparente à une quête d'identité. Gauguin, qui a d'abord connu l'aisance grâce à une première partie de sa vie passée en bourse, change de cap en 1883, larguant définitivement les amarres pour la peinture. Il part à la conquête d'un art nouveau, initié par les impressionnistes. Avant l'Océanie, le retour aux sources est la Bretagne, Pont-Aven et le Pouldu, où la côte rocheuse et surtout l'auberge Gloanec accueillent une petite colonie d'artistes venus peindre la vie rurale aux confins d'une région pétrie de superstitions et éclairée d'une lumière franche et étrange. Il y peint des paysages aux couleurs pures, se dégageant de tout penchant naturaliste, s'éloignant de l'impressionnisme, pour créer des images qui ressemblent à des visions, saturées de couleurs et au cadrage inédit. Autour de lui, Paul Sérusier, Émile Bernard ou le Hollandais Jacob Meyer de Haan deviennent ses adeptes, les peintres de l'école de Pont-Aven. Au premier d'entre eux, il instigue en 1888 sa manière de peindre, harmonieuse, colorée, simplifiée, gommant la perspective. Paul Sérusier réalise ainsi le Talisman, toile tachetée de couleurs quasi abstraites qui signe la naissance des Nabis. La même année, Gauguin peint la vision du sermon où les coiffes des Bigoudens se penchent sur la lutte de Jacob et l'ange, dessinée sur un puissant fond rouge orangé qui évoque son admiration pour Delacroix, tandis qu'il y a comme un air de Degas dans la composition. La réalité de la piété populaire se mêle ici à une représentation symbolique, intériorisée. Le traitement original de cette peinture constitue le début du synthétisme, fait de couleurs et d'espaces structurés, sans souci d'échelle. Une peinture frontale, dont la renommée voyagera jusqu'à Paris. Gauguin trouva dans les ocres, les noirs et les bruns de Bretagne son langage pictural, comme il le dit lui-même. « J'aime la Bretagne, j'y retrouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » Une peinture qui fait du bruit, Gauguin peut désormais partir vers d'autres horizons, plus mystérieux, pour créer une peinture qui chante. Souvenir du Pérou, de ses premiers voyages au long cours réalisés à 20 ans alors qu'il était matelot, ou souvenir de la Martinique, Gauguin s'embarque finalement pour l'Océanie en 1891, seul, laissant derrière lui les Nabis à Paris et Van Gogh dans la lumière blanche d'Arles. Lorsqu'il voit pour la première fois les récifs azur de Tahiti, il a probablement à l'esprit le voyage autour du monde de Bougainville et ses nymphes sorties des eaux, ou les écrits de Pierre Loti, venu chercher sur ce paradis terrestre des jeunes filles en fleurs. Mais à son arrivée à Papeete, il découvre avec désenchantement une culture maori presque inexistante, trop colonisée, temples et statues laissés à l'abandon. Un spectacle loin de son rêve paradisiaque. Pourtant, il saura se rattacher aux bribes de la culture polynésienne, à ses chants, ses danses et ses divinités. Au mysticisme breton va succéder le rêve polynésien. Il s'installe avec la vahinée Théa Amana, dont les traits du visage se retrouvent dans le grand portrait Vahinée no Te Tiare, la femme à la fleur. D'autres peintures suivront, parmi ses plus connues, Are Area, joyeuseté, Parahu Api, quelle nouvelle. Des scènes de la vie quotidienne et des pastorales exotiques qui dépeignent une joie de vivre, un jardin d'Éden. Des symphonies picturales presque ornementales. Dans Nafea Faayopoipo, quand te marieras-tu, une des toiles les plus séduisantes de cette époque, les lignes ondulent avec douceur, les poses sont silencieuses, les vahinées sont belles. Tout est calme et volupté, et le peintre aspire à devenir chaque jour un peu plus sauvage, comme il l'écrit dans son roman Noa Noa. Malade et sans argent, il se fait finalement rapatrier en France. Mais ne voulant plus obéir au courant artistique et aux conventions sociales, il repart très vite, dès 1895, sur la côte ouest de Tahiti, plus sauvage, avec la jeune Pahuhura, dont il aura son fils Émile. Durant cette deuxième période tahitienne, les bleus, les fauves et les ors dominent, les toiles s'agrandissent en forme de frise et semblent avoir valeur de mémoire de rites anciens, de fables et de contes oubliés, d'un âge d'or disparu. Les symboles chrétiens côtoient une inspiration issue des temples bouddhistes de Borobudur et des bas-reliefs sculptés de l'Égypte antique. des images qui étaient accrochées au mur de son atelier et ne le quittaient jamais. Le critique Octave Mirbeau avait pressenti ce mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil, faisant de l'œuvre de Gauguin un étonnant mythe coloré, totalement novateur. La nature tropicale et ses animaux, baignés de teintes chaudes mordorées, nous plongent dans l'univers onirique de l'artiste, qui atteint son apogée avec la célèbre toile « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» son grand œuvre au message philosophique, qu'il a peint comme son testament. Juste après, il tente de se suicider. Lui, le faune solitaire, cet homme nu et courbé sur son cheval qui apparaît dans le coin de ses toiles et qui ne trouve nulle part son paradis. Pourtant, les peintures des Marquises où il s'installe en 1901, à Atuona sur l'île d'Ivaoa, respirent d'un ultime souffle. Énigmatique conte barbare, irréel cavalier sur la plage et mystérieuse femme à l'éventail. Mais tous les contes ont une fin. Très malade, atteint de syphilis, Gauguin meurt dans sa maison du Jouir, ne laissant derrière lui que quelques bois gravés et une peinture que le poète voyageur Victor Ségalen ramènera en France. S'y trouvait aussi le long poème symboliste de son ami Mallarmé, L'après-midi d'un faune, avec cette dédicace aux sauvages et bibliophiles. C'était Paul Gauguin, Paradis perdu. Dans Art Story, une histoire, une œuvre d'art.